Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on continue à explorer votre stratégie patrimoniale et on accueille maintenant Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, directrice de l'ingénierie patrimoniale de Norman Kay. Et on cause de transmission de patrimoine parce qu'on évoque très fréquemment l'intérêt des donations de nue propriété d'un bien avec ce qu'on appelle réserve d'usufruit. Alors on va rentrer un petit peu dans tous ces détails pour tout bien expliquer. De quoi parle-t-on? Quel est l'intérêt finalement d'une telle opération?
En fait, on imagine un parent qui va transmettre la nue propriété d'un bien à ses enfants et se réserver l'usufruit.
Dans le cadre... Donc on découpe virtuellement, on va dire, en deux, le bien.
Exactement. D'une certaine manière, en fait, ce qui se passe, c'est que l'usufruitier, il se réserve ce qu'on appelle la jouissance du bien, à savoir les revenus procurés par le bien, mais également le pouvoir d'utiliser la chose. L'utiliser, ça peut être soit quand c'est un immeuble, pour lui à titre personnel, l'occuper, mais le mettre également, par exemple, en location.
Et en tirer des revenus.
Et en tirer exactement des revenus. Alors que le nu propriétaire, lui, sa prérogative essentielle, c'est le fait, il sait qu'il va devenir un plein propriétaire à terme. En fait, si on devait prendre un peu de recul et regarder ça, quelque part, notre usufruitier, il a la propriété économique du bien, et notre nu propriétaire, lui, il a plutôt une espèce de propriété juridique du bien, c'est lui le propriétaire.
Comment ça se manifeste, le pouvoir de gestion de l'usufruitier?
En fait, tout dépend du bien sur lequel l'usufruit va porter. Si je prends l'exemple d'un immeuble, dans ce cadre-là, notre usufruitier, il peut l'occuper à titre personnel, mais c'est lui qui va également pouvoir conclure les baux. Alors, les baux d'habitation, il peut les renouveler également tout seul. En revanche, dès lors qu'il y a des actes qui contraignent un peu la propriété, par exemple un bail commercial qui peut immobiliser le bien pendant un certain temps, là il ne peut le faire sans l'accord du nu propriétaire. La contrepartie de ça, c'est que notre usufruitier, il perçoit les revenus, c'est lui qui paie l'impôt.
Ah oui. On est d'accord. Ce démembrement, vous l'avez rappelé, il peut se faire sur différents types de biens. Alors effectivement, quand on a une maison, un appartement, un immeuble, enfin bref, on se dit c'est assez clair, c'est voilà, on voit bien les choses. Mais quand on complexifie un peu les choses, si par exemple on prend une SCI familiale, à ce moment-là les parts sont différentes. Comment ça s'articule un petit peu dans ces cas-là?
Là, on va avoir la possibilité, notamment dans une société civile, finalement, de fixer dans les statuts les pouvoirs politiques, les droits politiques de notre usufruitier et de notre nu propriétaire. Alors souvent, dans une relation parent-enfant, l'usufruitier va vouloir conserver un maximum de pouvoir et généralement, il va avoir la totalité des droits de vote et en plus, il sera gérant de la société civile. Mais ceci étant, on trouve des cas dans lesquels, en réalité, il peut y avoir un rééquilibrage. On peut même avoir des cas dans lesquels le nu propriétaire conserve l'essentiel des droits de vote. Mais en aucun cas, on ne peut ôter à l'usufruitier, c'est normal, puisque c'est lui qui a le droit de jouissance, la faculté de voter lors des assemblées générales qui statuent sur l'affectation du résultat.
Bon, société civile immobilière, là encore, on est dans les immeubles, etc. On se dit, il y a un bien qu'on ne peut pas physiquement vraiment découper, ni quoi ni qu'est-ce. Mais on vous l'avait dit, ça peut s'appliquer à d'autres types d'actifs, et notamment, par exemple, sur un portefeuille de titres. Là, quand il est démembré, qui fait quoi? Qui a le droit de quoi faire? Enfin, comment ça se fait? Ça s'organise de vendre? Parce qu'on imagine bien que s'il y a des dividendes, etc., ça, ce sont des revenus, ça revient à l'usufruitier, ça, on est à peu près d'accord. Mais vendre, arbitrer, ça génère de la plus-value, donc du revenu, mais bon,
comment ça se passe?
C'est aussi de la propriété.
C'est exactement ça, parce qu'en réalité, l'usufruitier n'a pas le droit de vendre le bien sur lequel porte l'usufruit. Donc dans le cadre de la gestion d'un portefeuille titre, c'est problématique, parce qu'en réalité, notre usufruitier, comme c'est lui qui gère, il va faire des arbitrages. Donc si chaque fois qu'il doit faire un arbitrage, il doit demander son avis au nu propriétaire, on n'est pas rendu. Non. Donc du coup...
Ça peut faire des débats.
On est bien d'accord. Ça n'a pas échappé au juge qui considère que le fait de prendre une décision d'arbitrer dans le cadre d'un portefeuille, c'est une décision de gestion, c'est plus un acte de disposition.
D'accord.
Donc notre usufruitier peut le faire tout seul. Par contre, en principe, le redevable de l'impôt de plus-value, c'est le nu propriétaire. Donc celui-ci se retrouve à payer de l'impôt de plus-value sur des décisions de gestion de l'usufruitier.
Ah, ouais. Bon, on continue dans les questions liées aux différents actifs. Est-ce que finalement, on peut pousser le vice, entre guillemets, jusqu'à se dire, bon, ok, je peux avoir démembré une maison, ok, je peux démembrer un portefeuille titre. Est-ce que je peux carrément prendre une somme d'argent, les liquidités, et dire je le démembre ?
En fait, l'usufruit peut porter sur tout type de bien, y compris une somme d'argent. Donc dans cette hypothèse-là, je vais donner la nue propriété d'une somme d'argent, je me réserve l'usufruit. Or, on comprend bien, là tout de suite, on se dit, ouais, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que...
Mais... ça coûte pas de source. Exactement. Je peux regarder la somme d'argent, mais je ne peux pas y toucher.
Alors justement, dans ce cadre-là, j'ai un espèce de super usufruit, c'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit. C'est-à-dire que comme notre usufruitier est obligé d'utiliser la somme d'argent pour pouvoir la gérer, pour pouvoir faire des investissements, en réalité, il a un quasi-usufruit et donc il fait ce qu'il veut avec la somme. Alors, bien sûr.
Y compris la dépenser.
Alors, la dépenser, par principe, il ne devrait pas, doit conserver, en tout cas, il est censé conserver la substance des biens. Donc là, comment ça se passe ? C'est surtout que notre nu propriétaire, là, il est plus nu que propriétaire.
C'est
donc, il se retrouve avec un droit de créance de la valeur de la somme d'argent sur le patrimoine de l'usufruitier. Et cette créance, il pourra la faire valoir au décès de l'usufruitier, c'est-à-dire que l'usufruitier lui doit, à l'extinction de l'usufruit, l'équivalent en nature ou en valeur du montant de sa créance.
D'accord. Donc, ça veut dire que si l'usufruitier a mangé, passez-moi l'expression, mais la somme d'argent, ce quasi-usufruit, entre guillemets, cette dette, elle viendra... aux yeux du fisc, entre guillemets, en déduction de la valeur du reste de l'héritage, en clair. Enfin, je ne sais pas si je schématise...
Alors, plus aujourd'hui. Ouais. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions, et notamment dans le cadre de la loi de finances pour 2024. La loi aujourd'hui a mis en place une présomption de fictivité de ce type d'opération, parce que finalement, le législateur considère qu'en fait, on transmet pas grand-chose quand on fait ce type d'opération. Et donc, de fait, lorsque mon quasi-usufruit a pour origine une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, il n'est plus possible fiscalement d'arriver avec sa créance de restitution et de dire je récupère en franchise de droit dont la succession l'équivalent en valeur ou en nature, ça s'est terminé.
Donc ça veut dire que aujourd'hui, à part ce cas-là, fiscalement, ça garde un intérêt ce dénombrement. C'est une opération, une stratégie patrimoniale qui a un sens fiscal.
Bien sûr, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que quand je réalise une opération dénombrement de propriété, en réalité, l'assiette des droits de donation, en fait, elle est limitée à la valeur de la seule nue propriété. Et à l'extinction de l'usufruit, donc le plus souvent au décès de l'usufruitier, mon nu propriétaire redevient plein propriétaire sans qu'il n'y ait de droits supplémentaires à payer. Et cette valeur de la nue propriété, en réalité, elle est fixée en fonction d'un barème fiscal. Et comme l'usufruit est un droit...
Mais ça ne se fait pas au hasard. Hein.
Ah non, ce n'est pas du tout au hasard. C'est l'article 669 du Code général des impôts. Et en fait, plus l'usufruitier donateur est jeune... moins la nue propriété a de valeur. Donc imaginons, je donne la nue propriété d'un bien, aujourd'hui j'ai 53 ans, le bien vaut 100, je ne serai, en tout cas le donataire ne sera taxé que sur 50. Si j'attends mes 65 ans, là par contre, mon donataire sera taxé sur une base de 60.
Donc à part... la petite nuance que vous nous avez exprimée sur ce quasi-usufruit quand on parle de somme d'argent, etc. Aujourd'hui, cette transmission en démembrement, elle n'a que des avantages.
Alors, fiscalement, effectivement, c'est assez avantageux. Après, il faut quand même faire attention. Il faut que l'usufruitier comprenne qu'il n'est plus propriétaire du bien. Ça, c'est vraiment important. Certes, il a droit au revenu, certes, il le gère, mais il n'est plus propriétaire. Donc, il ne peut plus mobiliser de capital afférent à ce bien. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en pratique, il ne faut jamais transmettre l'intégralité de son patrimoine en démembrement de propriété et surtout pas sa résidence principale. Il est important de garder des biens en pleine propriété, ne serait-ce que pour financer plus tard sa
dépendance
et ne pas dépendre de ses enfants.
Merci beaucoup Sandrine.
Merci.
Sandrine Kilici et Norman Kay qui vous accompagnaient ce matin pour causer de cette stratégie qu'est le démembrement.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.